Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu, mais avant cela, je vais prier encore pour que le Seigneur puisse encore me diriger pour vraiment vous partager la pensée qu'il m'a mis encore sur le cœur. Vous savez, quand on se tient devant Dieu pour savoir ce qu'on doit vous dire, ce n'est jamais évident. C'est une véritable responsabilité. On a la pression qui monte quand on est devant vous. Peut-être que vous pourrez penser que je suis à l'aise ou que les prédicateurs sont à l'aise, mais je vous assure, c'est un véritable travail avant et nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin encore, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous conduire au travers des lectures, au travers de son esprit, pour que nous puissions vraiment recevoir chacun pour notre part ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors prions encore, demandons toute la grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remets encore, Père éternel, Saint-Dieu, ces moments. Nous sommes là, Père éternel, devant toi. Nous sommes conscients, Saint-Dieu, de l'importance de ces moments, Jésus. Nous ouvrons le Saint-Livre, nous ouvrons, Saint-Dieu, ta parole que tu nous as donnée, Saint-Dieu. Et nous sommes venus ce matin encore pour louer ton nom, pour t'adorer, pour, Saint-Dieu, aussi recevoir quelque chose de toi. Parce que nous savons, Saint-Dieu, encore que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos vies, Saint-Dieu. Et je te prie, Saint-Dieu, de m'accorder encore toute la grâce de pouvoir partager, Saint-Dieu, en toute simplicité encore, cette pensée que tu as mise sur mon cœur, Saint-Dieu, de pouvoir partager en toute simplicité ta parole, Jésus, afin que nous puissions être glorifiés, afin que tu puisses être glorifié, Jésus, et que dans nos vies, Saint-Dieu, nous puissions encore, Saint-Dieu, reconnaître que tu es ce Dieu vivant et vrai, Saint-Dieu. Vraiment, à toi, toute la gloire, Père. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais vous laisser cette question, ça sera le titre de mon message. Quelle est ta révélation de Jésus-Christ ? Quelle est ta révélation de Jésus-Christ ? Je me suis poser cette question parce que j'ai vu que au travers de différents passages on peut voir combien la révélation de Jésus que l'on a dans notre vie peut change complètement le cours de notre vie. Quelle est la révélation qu'on peut avoir au travers de la révélation de Jésus? Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire dans Actes au chapitre 9. Il y a ce grand homme de Dieu, Saül, qui à ce moment-là n'était pas encore ce grand homme qui va être. Acte 9, on va lire à partir du verset 1er. On va lire quelques passages, sûrement qu'on y reviendra au cours de la prédication, mais on va se servir de l'histoire de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, celui qui va devenir l'apôtre Paul. On va se servir de son histoire pour vraiment comprendre combien la révélation qu'on peut avoir de Jésus peut changer totalement notre vie. Verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre en lui demandant des lettres pour la synagogue de Damas, afin de pouvoir arrêter et mener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes et femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul ! Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Amen. Quelle histoire ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet homme était un pharisien zélé, plus que zélé. Il s'était levé pour anéantir tous les disciples de Jésus, tous ceux qui parlaient de Jésus. Cet homme avait ce zèle au fond de son cœur en passant défendre la cause de Dieu. Il s'était levé et avait vraiment ce désir de pouvoir faire taire cette secte, comme il l'appelait, tous ceux qui pouvaient suivre Jésus. Et pendant qu'il s'en va et qu'il part sur ce chemin de Damas pour aller mettre en prison plusieurs disciples de Jésus, il va avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et on va voir que Jésus va se révéler à lui et il va lui poser cette question, « Saul, Saul !» pourquoi me persécutes-tu ? Saul va lui répondre et lui dire, mais Seigneur, qui es-tu ? Seigneur, qui es-tu ? Et cette révélation va lui amener et le Seigneur va lui répondre, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et il va lui donner une consigne, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et là, il y a ce premier contact que Saul a eu avec Jésus. Et cette révélation va être là sur ce chemin de Damas. Il va voir cette grande lumière, peut-être quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. On nous a dit que ceux qui l'accompagnaient étaient totalement dans l'étonnement. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Ils étaient sous le choc. Mais Paul va faire une rencontre personnelle avec Jésus. Bon, vous aurez compris que Paul et Saul, c'est le même personnage. Mais vous ne voyez pas si un coup je passe à Paul, un coup à Saul. Paul va avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Il va être confronté. Il va être mis devant le fait accompli. Paul pensait mener une vie qui plaisait à Dieu. Il pensait mener une vie qui était droite. Il était vraiment zélé quand on regarde les autres textes et quand lui-même va parler de sa propre vie. Il va dire qu'il était le plus zélé d'entre tous. Parmi cette génération, parmi sa propre génération, il était parmi les plus zélés. Celui qui avait vraiment un feu pour Dieu. Mais pourtant, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la révélation de Jésus-Christ. Et ce matin, si nous sommes là dans cette église, c'est parce que soit nous désirons rencontrer ce Jésus-Christ, soit c'est parce que nous l'avons rencontré. Mais peut-être que j'aimerais m'adresser avant tout à toi qui n'as pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu es peut-être comme Saul, peut-être que toi tu ne respires pas le meurtre et la menace. Peut-être que ta vie est même très bien rangée, toute droite, toute carrée, tes valeurs, tes mœurs sont bonnes. Mais il te manque quelque chose. Il te manque la révélation de Jésus-Christ. Cet exemple, nous l'avons tout à fait quand, vous savez, le docteur de la loi, le grand Nicodème, va voir Jésus de nuit, parce qu'il a peur quand même. Il va voir Jésus et dans le chapitre 3, on va lire juste quelques versets, Jean 3, il y a cette rencontre personnelle, pareil, entre Nicodème, qui est un homme qui aussi a la crainte de Dieu, mais qui ne comprend pas tout ce qui se passe. Et Nicodème va avoir un échange, va poser plusieurs questions à Jésus. Il y a ce verset qu'on connaît si bien qui a donné Jean 3:16, vous le connaissez ? On va lire à partir du verset 14, Jean 3:14. Vous savez, des fois, quand on connaît un verset par cœur, le problème, c'est qu'on occulte tout ce qu'il y a autour. Et pourtant, c'est tellement riche, ce texte. Jean 3, le verset 14, c'est Jésus qui parle et dit, « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui a fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, évident ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Et là, nous avons un passage où Nicodème va essayer de comprendre, mais c'est quoi en fait? Il va lui poser cette question sur la nouvelle naissance, le fait de pouvoir naître de nouveau. Parce qu'en fait, l'œuvre de Jésus-Christ, ce que nous avons partagé tout à l'heure, au travers de la Sainte-Seine, que ce soit au travers des chants aussi, l'œuvre de Jésus-Christ, ce Jésus qui vient à la croix, qui se donne pour que nous puissions être pardonnés, peut-être une simple histoire qu'on connaît par cœur, peut-être simplement un récit que l'on peut connaître, qui se transmet de génération en génération, que l'on connaît peut-être de façon intellectuelle. Mais à un moment donné, si tu te laisses toucher, si tu te laisses interpeller, si tu laisses la révélation de Jésus venir dans ta vie, ce sacrifice à la croix prend tout son sens. Ce sacrifice à la croix prend tout son sens. Parce qu'à ce moment-là, ce sacrifice n'est plus un sacrifice parmi tant d'autres. N'est plus un sacrifice pour, voilà, un homme qui s'est donné, même s'il était saint, même s'il était juste. C'est un homme qui s'est donné. Non. Ce sacrifice, ça devient mon sacrifice. Parce que je prends conscience tout à coup que, ben, je suis dans les ténèbres. Que tout à coup, je prends conscience que mon cœur est sale. Tout à coup, je prends conscience que ma vie n'a pas de valeur si elle n'est pas en Jésus. Je prends conscience tout à coup de ma nature pécheresse, de ma vie qui n'a aucun goût, aucune saveur, qui n'a rien. Et ça vient uniquement par la révélation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies et qui nous fait comprendre qu'est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix. Vous savez ce que signifie le mot révélation ? En grec, le mot révélation, c'est apocalypsis. Apocalypse. Le mot révélation, c'est mettre à nu. Révéler une vérité, une instruction. Et le mot révéler, qui est quasiment le même mot en grec, c'est découvrir, dévoiler ce qui a été couvert, enlever le voile. Révéler, mettre à nu. Porter à la connaissance, rendre manifeste. Et la révélation, c'est exactement ça qui doit se passer dans nos vies. Nous devons, il faut que notre vie soit mise à nu devant le Seigneur pour qu'on puisse réaliser dans quel état nous sommes. Tant que nous n'avons pas compris ce que nous avons réellement besoin dans nos vies, tant que nous n'avons pas compris la nécessité que nous avons besoin de Jésus-Christ, la nécessité qui est la nôtre d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons pas comprendre tout le sacrifice de Jésus. Et il y a cette révélation qui doit venir au travers de la lecture de la parole, au travers de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous révéler l'œuvre de Christ. Et quand nous avons compris cela, que nous avons compris notre nature, que nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous, alors notre vie change. Et nous le savons, quelqu'un qui découvre tout d'un coup la lumière vient habiter en lui. Et il y a un changement qui est radical. Cette vie qui était là, dans laquelle nous étions, et combien d'entre vous pourraient témoigner ce matin du avant et du après. Ce comparatif que nous pourrions nous-mêmes faire dans nos vies. Mais avant, j'étais perdu. Maintenant, je suis sauvé. Avant, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. Et cela se traduit dans nos vies. Alors ce matin, je te laisse encore l'occasion, pour toi qui es peut-être encore dans les ténèbres. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui, présent dans ce lieu. Et il veut toucher ton cœur, il veut te révéler l'amour que Jésus a pour toi. Il veut te révéler combien il peut bénir ta vie. Ce matin, si simplement tu crois dans son sacrifice. Oh Seigneur Jésus. Mais la révélation de Jésus ne doit pas s'arrêter là. Parce que ça serait bien dommage, vraiment bien dommage, que nous puissions être là dans nos vies et de s'arrêter simplement à la croix. Même si la croix servira toute notre vie. Le nombre de versets qui nous encouragent à pouvoir revenir toujours à la croix. Si tu as un fardeau qu'il a sur ton cœur, viens au pied de Jésus, dépose-le. Mais la révélation de Jésus doit aller plus loin que simplement comprendre le sacrifice de Jésus. Il y a ces mots qu'on utilise souvent, c'est le fait d'avoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur. C'est le fait de comprendre que Jésus est mort à la croix pour toi. Et après, il y a le fait d'avoir Jésus comme Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige sur ta vie. Il est le Seigneur, le Maître, le Roi des Rois. Et nous devons être vraiment ses serviteurs. Et la révélation que nous devons avoir, c'est cela. Une fois que nous avons compris que Jésus est notre Sauveur, nous devons comprendre que Jésus est notre Seigneur. Alors, sur le papier, on le comprend souvent très bien. « Ok Seigneur, je t'abandonne toute ma vie. » Mais dans la pratique, oh combien c'est difficile. Ô combien c'est difficile parce que il y a plusieurs choses qui se passent en nous. Déjà, il y a notre chair. La parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La révélation vient au travers de l'esprit. C'est l'esprit qui nous révèle qui est Dieu. Et au fur et à mesure que nous marcherons, c'est vraiment l'esprit qui va nous apprendre, qui va nous conduire. Il nous est dit que l'esprit, le consolateur, a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Donc l'esprit va être là et il va être ce guide, ce maître qui va nous conduire. Mais il y a cette chair qui est là. Et la chair, elle ne veut pas tout ça. Elle, la chair, elle veut qu'on la laisse tranquille. Elle veut que on puisse faire le minimum d'efforts. Donc, Seigneur, tu es mon sauveur, ça me va. Mon âme est sauvée, j'irai au paradis, gloire à Dieu. Mais comprenons qui est Jésus. Comprenons qui est notre Dieu. Est-ce qu'il mérite simplement cela? Est-ce que quand on réalise, comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Voilà celui qui nous a sauvés. Et nous avons besoin de comprendre toujours plus combien le Seigneur est grand, afin que cette chair qui est là et qui veut se rebeller puisse être crucifiée à son tour. La parole de Dieu, des fois, utilise des termes qui sont vraiment durs. C'est pas simplement on laisse la chair de côté, mais l'apôtre Paul va dire il nous faut crucifier notre chair, tout comme Jésus a été crucifié à la croix. Et que nous puissions comprendre cela. Il y a la chair qui est là, et puis nous savons très bien aussi qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est là. Et donc du coup, s'il y a la chair, s'il y a l'ennemi, il nous faut comprendre qu'il y a un combat. Il nous faut comprendre qu'il y a un combat. Et l'apôtre Paul va connaître ça. Au travers de sa vie, quand nous avons lu tout à l'heure, il était perdu, l'apôtre Paul. Il va avoir cette révélation de qui est Jésus. Il va être confronté sur le chemin de Damas à la révélation de Jésus-Christ. Mais le monde de Paul va s'écrouler. Il était plein d'assurance, plein de détermination. Il était sûr de lui. Rien ne lui faisait peur. Et puis, il va être complètement déboussolé. Mais vous savez, on va revenir sur ce texte parce que l'histoire continue lors de cette conversion. Et il y a un nouveau personnage qui va intervenir dans cette histoire, Ananias. Mais le pasteur nous encourage souvent à faire attention aux petits détails. Le verset 10, acte 9, le verset 10 nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit au Seigneur, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici en plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. On pourrait s'arrêter là. Mais le verset 16 nous dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » L'apôtre Paul va passer entre le moment où il est Saul de Tarse, et le moment où il va devenir l'apôtre Paul. Il va devoir apprendre tout ce qu'il va devoir souffrir pour Jésus-Christ. Il va comprendre, le Seigneur va prendre du temps avec lui pour lui révéler qui est Jésus, ce qu'il attend de lui, quel est son plan pour lui, mais tout ce que ça implique aussi. Il nous a dit que c'est dans Galates, au chapitre 1, l'importance d'avoir des révélations, l'importance de laisser le Saint-Esprit nous parler, l'importance de comprendre que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de venir dimanche après dimanche, de simplement prendre un temps dans la semaine pour ouvrir la parole de Dieu. Mais c'est bien plus sérieux que ça. Galates, chapitre 1, verset 11, il nous est dit, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas d'un homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu. Je cherchais à la détruire. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Je ne suis même, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis remonté à Damas. » Paul va passer un temps seulement lui et son Dieu. Il n'est pas parti consulter un homme, il n'est pas parti voir les grands apôtres qu'il y avait à l'époque avant lui. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean. Il va y aller après. Il va y aller après. Le texte nous le dit, si on continue la lecture, on peut le voir qu'après il va aller voir Pierre, il va aller voir Jacques, il va retourner après 15 ans, après à Jérusalem encore. Mais à un moment donné, la parole Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit, mais ce n'est pas d'un homme que j'ai reçu ces choses-là. C'est d'une révélation. Le Seigneur m'a montré qui il était. Et donc du coup, j'ai vraiment cette question qui est là. Mais quelle est ta révélation de Jésus-Christ dans ta vie? Quelle est ta révélation de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es arrêté à Jésus-Christ mon sauveur? Est-ce que, oui, tu as peut-être commencé Jésus-Christ et mon Seigneur? Parce que je le crois que Jésus est le maître de nos vies. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes ce matin là, dans cette église, que nous nous sommes levés ce matin, plutôt que peut-être de faire la grasse matinée ou de profiter du beau temps, que nous avons choisi de venir dans ce lieu pour entendre parler de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus est le maître de nos vies. Mais il y a tellement de façons de se laisser tout à nouveau revoiler, de tout à nouveau mettre un voile sur nos vies. Vous savez, quand dans la parabole des terrains, il y a une des choses que l'ennemi fait, c'est que quand la graine est plantée, il y a la mauvaise herbe aussi qui vient, et les deux poussent ensemble. Et combien de fois dans nos vies, on a une révélation, une parole de Dieu qui touche nos cœurs profondément? Le Seigneur te dit quelque chose pendant que tu es là en train de lire sa parole. Il y a un texte particulier qui te parle, qui te touche, qui te saisit au fond de toi. Et tu commences à avoir ce zèle au travers de ce texte. Vraiment, ça te parle, ça te retourne. Mais les jours passent. Les habitudes reviennent. L'emploi du temps bien chargé de nos vies. Et l'ennemi revient mettre un voile sur cette révélation que tu as eue. Vous savez, quand Jésus est mort à la croix, il y a cette symbolique extraordinaire qui était là, le jour, au moment où Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré en deux. Ce symbole qui nous montrait que nous avions accès totalement à la présence de Dieu. Nous avons accès, toi et moi, nous avons accès à la présence du grand roi. Que faisons-nous de ce privilège? Que faisons-nous de ce privilège? Imaginez que demain, on vous donne l'accès illimité pour rentrer, à la Maison Blanche, au Buckingham Palace. Peu importe à quel palace extraordinaire. Vous avez une carte. Prenez cette carte. Et vous avez accès à toutes les portes. Personne ne vous dira rien. Cette carte ouvre toutes les portes. Mais que vous preniez cette carte, que vous la laissez dans votre poche. Et que vous vous dites, bon, un jour peut-être, je l'utiliserai. Mais on vous dirait, mais vous êtes fou. Au moins, vas-y au moins une fois pour voir. Non, j'attends le bon moment. Mais le voile a été déchiré en deux. Le voile a été déchiré en deux. Et Jésus vous a donné le privilège de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Il vous a donné ce privilège-là. Et ce matin, chaque jour, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Quelle est ta révélation de Jésus-Christ? Quelle est ta révélation? Le fait d'avoir une révélation particulière, vous savez, il y a quelques jours, un dimanche, je me rappelle plus lequel, c'est, quand j'ai présenté la Sainte-Seine, il nous est dit, j'ai insisté sur le mot indignement. C'est le fait de ne pas réaliser qui est Jésus. Et la révélation, c'est la même. C'est la même chose. Plus tu réalises, plus ta révélation est grande vis-à-vis de qui est Jésus. Plus tu réalises à qui tu as affaire, plus tu comprends l'importance qu'il y a de passer du temps avec cette personne. Et ce matin, simplement, que nous puissions comprendre cela. Mais vous savez, il y a des fois des modèles dans la Bible qui sont là, comme l'apôtre Paul, qui sont des fois inaccessibles. On s'est dit, l'apôtre Paul, il était trop fort. Il était trop fort. La révélation qu'il a eue, moi, j'ai pas une lumière qui est venue, j'ai pas un ange ou la voix de l'Éternel qui a été entendue. Il n'y a pas eu tout ça dans ma vie. Mais le Seigneur nous a donné plein d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a, quand je préparais ce moment, il y a l'exemple de l'apôtre Pierre. Bon, ok, peut-être que c'est aussi encore... Mais l'apôtre Pierre, avant qu'il soit vraiment ce grand apôtre, il était ce jeune homme fougueux, qui était là, plein de zèle aussi, mais à chaque fois très maladroit. Mais il a fait des expériences extraordinaires. Vous vous rappelez quand Jésus va marcher sur la mer de Galilée? Vous vous rappelez de ce passage? Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22. Jésus aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, lui seul. Je vous laisse ce passage-là. Pour prier à l'écart, lui seul. C'était Jésus, le roi des rois. On continue. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Un exemple de révélation. Quand tu es dans une situation quelconque, où il y a peut-être les vents qui sont là, peut-être que la mer est déchaînée, si tu entends cette parole, n'aie crainte, je suis avec toi. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui est Jésus. Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Pierre avait une foi tellement simple. « C'est toi, Jésus ? Alors dis-moi de venir. » Jésus va lui dire, « Viens. » Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Certes, on pourrait parler sur ce texte-là, ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais on peut voir qu'à un moment donné, ils ont eu peur. Mais Jésus s'est révélé, c'est moi. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne. Viens. Et Pierre a fait cette expérience extraordinaire de marcher sur l'eau. La foi. Mais c'est vrai, encore l'apôtre Pierre, c'est peut-être encore un peu trop haut pour nous. Alors on va lire un autre passage. On va lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 1. On va pas lire toute l'histoire. Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait de tombeau et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec des chaînes. On va sauter le passage et on va avancer un peu la lecture. On va lire à partir du verset 7. « Que me veux-tu ?» C'est les démons qui sont là. Et « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ça, c'est l'esprit qui animait cet homme-là, qui était là et qui va dire ça. En effet, Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Il lui demanda « Quel est ton nom ?» On continue à passer. Verset 18. « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas et il dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi ?» Il s'en alla, mis à proclamer dans toute la décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. On va lire la suite après. Mais là, on a un homme qui est possédé, lié. Il y a une légion de démons qui sont en lui. Cet homme est au plus bas. Jésus va venir, il va opérer une délivrance extraordinaire. Il va libérer cet homme. On a pas lu le verset 16, mais on va le lire maintenant. La tristesse quand même. Parce que cet homme-là est là, lié, personne n'arrivait à tenir cet homme-là. Les démons étaient tellement forts en lui, c'était terrible. Mais une fois que la guérison va s'opérer, le verset 16 nous dit, ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui est arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Cette phrase-là est terrible. Parce que Jésus va venir opérer une délivrance extraordinaire. Et la seule chose que c'est, tous ceux qui ont été témoins de la scène vont faire, ils vont demander à Jésus de partir. Ils vont demander à Jésus de partir. Et dans notre vie, nous avons ce choix-là. Soit nous acceptons Jésus, soit nous refusons Jésus. Jésus va partir de cette zone, va partir de cet endroit. Il est venu que pour ce démoniaque. Mais la révélation de Jésus doit produire du fruit dans nos vies. Cet homme-là a rencontré Jésus. Ce démoniaque-là a rencontré Jésus. Jésus, il va venir au pied de Jésus. Quand Jésus va partir, il va dire, mais que je puisse venir avec toi. Jésus va dire, non, tu restes ici. Et tu vas raconter ce que j'ai fait pour toi. Ce que j'ai fait dans ta vie. Tu vas raconter ça à tous les tiens. Et cet homme-là va prendre ça au pied de la lettre. Et il nous a dit qu'il va le publier dans toute la décapole. La décapole, c'était un ensemble de 10 villes. Parce que quand Jésus se révèle à nos vies, cela doit porter du fruit. Alors on lit un peu plus loin. Marc 6, verset 53. Après avoir traversé le lac, au verset 53, après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et ils abordèrent. Dès qu'il fut sortir de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs et ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. On est exactement dans la même région. On est exactement au même endroit. Les gens qui ont chassé Jésus, quand ils ont vu ce qu'ils avaient fait à ce démoniaque, une fois que ce démoniaque va faire le tour des villes et il va raconter la révélation de Jésus-Christ qu'il a eue, C'est celui-là qui m'a guéri. Il m'a sorti de ma misère. Il a fait ceci dans ma vie. J'étais tenu lié par des démons. Mais maintenant, je suis libre. C'est Jésus qui a fait ça dans ma vie. La révélation de Jésus-Christ doit produire du fruit dans nos vies. Et quand Jésus va revenir sur ce territoire-là, les mêmes gens qui ont dit à Jésus de partir, ils vont accourir de tous les côtés. Ils vont venir de toutes parts. Dès qu'il y a un malade, viens, Jésus est là, il peut te guérir. La révélation de Jésus-Christ, c'est ça que ça doit produire dans nos vies. Vous savez, cette parabole que Jésus donne, quand on allume une lumière, une lampe, est-ce que c'est pour la cacher, la mettre sous un boisseau? Ou alors c'est pour qu'elle puisse briller, pour qu'elle puisse éclairer? Jésus-Christ est venu dans nos vies. Il nous a changés, transformés, délivrés, guéris et bien d'autres choses. Nous devons continuer à désirer que le Seigneur Jésus se révèle encore plus à nos vies, pour que nous puissions comprendre tout ce qu'il a pour nous, pour que nous puissions comprendre pleinement qui il est lui, comment ce roi des rois est grand. Et alors, nous pouvons nous identifier à cet homme-là, quand même. Cet homme-là a été guéri, libéré de ce démon. Et il a simplement raconté ça à tous ceux qui voulaient l'entendre. Partout où il passait, dans ce regroupement d'une dizaine de villes, il est passé, il a dit « Jésus m'a guéri de démoniaque à évangéliste ». Et là, on n'en parle pas comme un grand apôtre. On ne peut pas dire qu'il a eu un ministère particulier où le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe, où il y a une lumière extraordinaire qui est venue, où il y a eu un truc vraiment extraordinaire. Il a juste fait une rencontre avec Jésus, comme chacun d'entre nous. Une rencontre personnelle. Il a compris qui était Jésus. Et nous devons comprendre qui est Jésus. Même si ça fait des années et des années et des années que nous marchons avec Jésus. Même si ça fait des années et des années que nous marchons avec Jésus. S'il est le maître de notre vie, nous devons désirer apprendre encore plus de lui. Nous devons désirer connaître encore plus qui il est. Nous devons être assoiffés de savoir qui est Jésus. Nous devons être assoiffés de sa parole. Nous devons être désireux de plonger nos regards et d'avoir cette prière « Jésus, parle-moi, montre-moi, explique-moi. J'ai besoin de comprendre qui tu es. J'ai besoin de comprendre qui tu es. » Alors, quelle est ta révélation de Jésus-Christ? Quelle est ta révélation de Jésus-Christ? Je nous laisse avec cette question. Quelle est notre révélation de Jésus-Christ? Et es-tu satisfait de cette révélation? Ou est-ce que tu en veux plus? Est-ce que tu en veux plus? Combien d'hommes et de femmes, dans la parole de Dieu, à un moment donné, ont désiré plus de lui? Plus de lui. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons encore une fois nous approcher de toi. Encore une fois, nous voulons réaliser qui tu es. Père éternel, je te prie, Jésus. Saint-Esprit, je te demande encore de venir dans nos vies et de venir te révéler à nous. Père, que tu puisses venir dans nos vies, chacun pour notre part, et que nous puissions encore repartir avec un désir puissant de te connaître encore et encore, que nous puissions être renouvelés dans notre désir de passer du temps avec toi, que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, encore comprendre un peu plus qui est notre Dieu, à qui nous avons affaire, de comprendre vraiment ce que signifie que tu es le roi des rois, que tu es le seigneur des seigneurs, que tu es le maître de nos vies. Jésus vient encore ouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions contempler ta gloire, Jésus. Père éternel, que nous puissions encore, Saint Dieu, vraiment plonger nos regards dans ta parole, et que ton esprit puisse venir ouvrir nos yeux, que ton esprit puisse ouvrir, Saint Dieu, nos cœurs, notre esprit, à notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta révélation, que nous puissions comprendre qui tu es. Jésus, c'est vraiment ma prière, Saint Dieu, pour chacune de nos vies. Nous avons besoin de toi, Jésus. Père, je te remercie pour cela. Mon Dieu, je te remercie, Père. Oh, Dieu de grâce. Dieu de grâce.